Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Myriam Lemaire.
Madame, Monsieur, bonjour. À l'occasion de l'ouverture de l'année polaire internationale 2007-2008, qui est la quatrième année polaire après celle de 1882-1883, 1932-1933 et 1957-1958, le Parlement français a jugé nécessaire d'évaluer la recherche française et la place de notre pays dans les régions polaires. En effet, une partie des réponses sur l'évolution du climat, sur la préservation de la biodiversité et l'avenir de nos sociétés se trouve dans ces régions, en Arctique et en Antarctique. Les pôles sont à la fois des acteurs et des témoins de ces changements. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui est composé de députés et de sénateurs, a demandé au sénateur Christian Gaudin, qui est le premier et le seul parlementaire français à s'être rendu en Antarctique, de rendre un rapport sur les enjeux de la recherche polaire française. Dans le cadre de nos émissions consacrées au rapport du Sénat, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Christian Gaudin, sénateur de Maine-et-Loire, membre de la Commission des finances du Sénat, rapporteur spécial de la recherche, et qui est aussi un scientifique de renom, docteur en sciences, professeur à l'École centrale de Nantes. Monsieur le sénateur, bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie.
Bonjour.
Monsieur le sénateur, vous êtes l'auteur donc d'un rapport intitulé « Se donner les moyens de l'excellence, la recherche polaire française à la veille de l'année polaire internationale ». Rapport remis en février 2007 à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et vous êtes aussi le rapporteur du colloque du 1er mars 2007 qui a ouvert solennellement au Sénat l'année polaire internationale 2007-2008, un événement majeur organisé tous les 50 ans. Vous avez été chargé d'une mission auprès de Madame Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le 15 juillet dernier. Et vous êtes chargé donc d'établir, avant la fin du mois d'octobre 2008, un rapport sur la conférence internationale de l'Arctique qui se tiendra les 9 et 10 novembre 2008 à Monaco. Avant d'évoquer ces deux rapports, Monsieur le sénateur, pouvez-vous évoquer pour les auditeurs de Canal Académie votre mission en Antarctique, une aventure humaine exceptionnelle. Je crois aussi que plus récemment, vous vous êtes rendu dans l'Arctique et vous pourrez également nous en dire un mot. Quels sont vos souvenirs les plus marquants? Ces expéditions ont-elles conforté votre attirance pour ces régions polaires, ces contrées désertes et terrifiantes qu'évoquait Jean-Baptiste Charcot, que vous citez dans votre rapport?
Je vous remercie, madame, et c'est bien sûr avec beaucoup de plaisir que je vais évoquer pour les auditeurs de Canal Académie cette expérience vécue en 2005 sur le continent antarctique. Et effectivement, vous parlez d'aventure humaine exceptionnelle. Ce qu'il faut, je crois, signaler et saluer, l'aventure humaine exceptionnelle, c'est celle de ces femmes et de ces hommes qui choisissent d'hiverner, de rester 9 à 10 mois sur ce continent des extrêmes. Ces chercheurs scientifiques, mais aussi tous ces personnels techniques qui permettent justement de soutenir la vie et l'activité de ces scientifiques sur un continent aussi difficile. Alors, bien sûr, quelques souvenirs. J'ai personnellement 3 ou 4 grands moments à évoquer dans cette arrivée sur le continent antarctique par un avion cargo de l'armée américaine qui m'a un jour débarqué sur la banquise, la glace de mer, au droit d'une station scientifique italienne. Et véritablement, je suis arrivé dans un endroit de glace qui, pour moi, évoquait dans ma réflexion ce que pouvait être l'arrivée sur une autre planète, tellement c'était étrange. Et ensuite, des moments les plus forts, c'est mon arrivée à la station toute nouvelle, la station Concordia, qui est l'initiative de la France et de l'Italie conjointement pour mettre en œuvre à 1200 km de la côte, donc véritablement sur le continent antarctique, une base, une station qui est habitée pendant l'hiver austral, donc aux conditions les plus pénibles. Je les rappelle très rapidement, c'est une température qui avoisine les moins 80 degrés. C'est la nuit la plus longue, puisqu'elle va du mois de mai à la mi-août. Et c'est à une altitude sur le Dome C, là où est implantée la base Concordia, de 3300 mètres. Ce souvenir à l'arrivée sur la base Concordia, c'est véritablement l'accueil par les premiers hivernants de cette station. Et pour moi, ça a été humainement quelque chose d'assez fort de retrouver, rencontrer ces 13 personnes qui venaient de passer ces 9 mois dans la difficulté de l'hiver austral. Ensuite, je suis allé de cette base Concordia vers la station historique du Mont d'Urville, qui est une station, comme vous le savez, de banquise côtière, mais c'est 1200 km. Je les ai donc parcourus sur le raid tracté de tracteurs à chenilles, et j'ai été à l'œuvre pendant 12 jours pour parcourir cette distance. Et ça a été là aussi avec l'équipe du raid, parce que ce raid a pour objet d'assurer la vie de la station Concordia en y apportant les vivres, le carburant nécessaire à la production de l'énergie, mais aussi le matériel scientifique. Donc il est essentiel et ne peut se faire que pendant la durée de l'été austral, qui, je vous le rappelle, ne couvre seulement que quelques mois de l'année, 4 mois. Alors j'ai ces douzaines de jours sur la glace pour parcourir 1200 km reste pour moi, en termes de logistique, pour l'ingénieur que je suis, un souvenir tout à fait d'excellence. Et puis, je crois que la dernière partie de ce périple, c'est-à-dire le retour de la base du Mont d'Urville vers le continent australien, vers le port d'Hobart avec le bateau brise-glace Astrolabe, a aussi été le dernier maillon de ce périple de 5 semaines sur le continent antarctique. Alors, vous pensez combien je garde de cette période vraiment un très très grand souvenir. Et comme le rappelait Jean-Baptiste Charcot, on ne peut justement aller sur ces contrées sans revenir en étant complètement changé. Et je crois que à l'image de beaucoup de personnes qui sont rendues sur les pôles, après en avoir épongé les quelques difficultés, avoir oublié la pénibilité de ces moments, on aspire véritablement qu'à retourner vers ces lieux.
Il y a une sorte de fascination, j'imagine, pour ces lieux étranges. Et cette fascination, vous l'avez ressentie?
Pourquoi va-t-on sur ces zones? Pourquoi sont-elles stratégiques? Elles sont stratégiques d'abord parce qu'elles sont, elles sont fragiles. Vous savez que notre planète a deux sources froides qui sont les deux pôles. Ces deux pôles sont recouverts de calottes glaciaires qui sont aujourd'hui fragilisées. Et on y reviendra par la suite concernant le pôle Nord, l'Arctique. Sur le continent antarctique, puisque la grande différence, bien sûr, entre les deux pôles, c'est que le pôle Sud est un continent qui est recouvert d'une calotte de glace, alors que le pôle Nord est l'océan glacial arctique, qui a donc une banquise qui pose, comme on le sait aujourd'hui, de grandes difficultés par rapport à sa réduction qui est tout à fait intense actuellement.
Mais pourquoi doivent-elles être protégées? Quelles sont les principales menaces, au fond, par rapport à ces régions polaires? Est-ce que ce sont des menaces liées au réchauffement climatique? Est-ce qu'il y a d'autres menaces?
Les menaces sont d'abord celles, liées à l'évolution du climat. Le réchauffement climatique, bien sûr, fait fondre la banquise, c'est évident pour le pôle Nord. Pour le pôle Sud, la menace peut être la fréquentation. Je vais évoquer là le caractère tout à fait particulier de ce continent qui a fait l'objet en 1959 d'un traité qui garantit à ce continent une utilisation, une fréquentation uniquement pour l'activité scientifique.
C'est ce que l'on appelle, je crois, le système antarctique. Est-il réellement protecteur ?
Alors, c'est un système qui véritablement est protecteur, puisque l'ensemble des pays revendiquant une possession, comme la France par exemple, qui revendiquait la Terra Deli, l'ensemble des pays revendiquant une possession, qui était au nombre initialement de 8, sont aujourd'hui, ont été rejoints par un ensemble de nations qui désirent développer une activité scientifique. Et aujourd'hui, 44 nations sont présentes sur des bases de banquise, donc sur le périmètre de ce continent antarctique. Et il n'y a seulement 3 bases aujourd'hui au cœur de ce continent. J'ai évoqué la base tout à l'heure franco-italienne Concordia. Il y a la base russe pas très éloignée de Concordia qui est à Vostok. Et il y a bien sûr la base historique américaine qui est à Pôle Sud, hein, au pôle Sud géographique. Une quatrième base est aujourd'hui en prospection, en étude, et elle serait construite sur Dôme A, un des dômes les plus élevés du continent antarctique, qui culmine à 4000 mètres, et l'initiative est portée par la Chine. Vous voyez aussi, les Chinois aujourd'hui s'intéressent à ces sujets, car ils sont, au sens de la recherche polaire, fondamentaux. Donc, le traité de l'Antarctique de 1959 a été complété par des dispositions qu'on appelle le protocole de Madrid, qui date de 1993, qui assure la définition de ce continent et qui le dédie à la paix et à la science. Après cette période de guerre froide, notamment entre les États-Unis, la Russie, où on a pu envisager à certaines époques de réaliser sur ce continent notamment des essais nucléaires, il y a une prise de conscience pour protéger le continent antarctique et le protocole de Madrid vient là, mais pour une durée de 50 années à partir de 1993, protéger donc ce continent. Et c'est vraiment, pour moi, ça a été le point d'entrée sur ces sujets, puisque j'ai été rapporteur au Sénat du projet de loi qui était ce texte de transposition en droit français du protocole de Madrid. Et à cette occasion, j'ai, dans le cadre des auditions conduites pour établir le rapport, j'ai retrouvé d'anciens collègues du CNRS qui sont aujourd'hui en responsabilité dans l'établissement français qui organise les recherches et la logistique nécessaire à l'activité de la recherche polaire. C'est l'Institut Paul-Émile Victor qui est basé à Brest. Et ayant retrouvé ces personnes rencontrées quelques dizaines d'années auparavant au CNRS, je suis resté en lien et ayant été moi-même fasciné par la dimension scientifique et cette activité de recherche au pôle, j'ai voulu véritablement m'investir sur ces sujets.
Vous dénoncez dans votre rapport le développement du tourisme. Pourquoi ? Que doit-on redouter ? Et n'y a-t-il pas aussi des menaces accrues et nouvelles aujourd'hui en raison de la crise pétrolière ? Par exemple, dans l'Arctique, les réserves d'hydrocarbures attisent les convoitises des États riverains. La presse s'en est fait récemment l'écho. Pouvez-vous, et sur le tourisme, et sur les menaces en matière d'exploitation des gisements pétroliers, nous éclairer ?
Alors là, je voudrais tout d'abord préciser que la problématique est très différente d'un pôle à l'autre. Concernant le pôle sud, l'Antarctique, je viens d'évoquer le protocole, le traité international, qui protège véritablement ce continent. Le risque peut venir de la fréquentation. lorsqu'on augmente la fréquentation des personnes sur ce continent, on a bien sûr un risque de contamination évident. Et on voit se développer, notamment sur la péninsule. Vous savez, la partie de ce continent qui est véritablement dans le prolongement du Chili, de l'Amérique du Sud. Et il y a aujourd'hui des tour opérateurs qui organisent des voyages, vous savez, le tourisme d'aventure, de l'extrême. Et on transporte donc des populations sur la péninsule. Il faut rappeler que les conditions climatiques de la péninsule sont très différentes de la partie où moi je me suis rendu, où je suis allé, qui est complètement diamétralement opposée. Et les conditions font que des milliers de personnes, chaque année, peuvent se rendre dans cet endroit. Mais ça veut dire que le risque de contamination par rapport à la présence de ces personnes, alors au piétinement des régions qui parfois sont habitées par des manchotières, hein, des réserves d'oiseaux ou d'animaux marins sur la banquise, le risque de contamination est réel. Le protocole de Madrid a bien sûr prévu cela, mais dans le texte de transposition français, nous avons, nous, apporté, en ce qui concerne la France, un peu plus de rigueur sur ces sujets pour augmenter la contrainte, notamment dans l'organisation de ces voyages, parce qu'on sent bien que c'est là peut-être un des points de faiblesse du traité international. Alors, concernant le pôle Nord, avec la réduction évidente de la banquise, il y a des enjeux économiques évidents. Le premier, c'est la faisabilité à moyen terme, à une quinzaine d'années ou une dizaine d'années, de voies maritimes pouvant s'ouvrir et mettant en relation, par exemple, les pays européens avec l'Asie, en réduisant d'une façon quand même assez significative les temps de parcours. On peut imaginer que des bateaux, des cargos tankers dans une liaison entre Rotterdam et le port de Hong Kong, par exemple, quand on connaît toute l'intensité des échanges aujourd'hui avec les pays d'Asie, eh bien la réduction du transport par voie maritime de ces cargos passerait d'une trentaine de jours à seulement une vingtaine de journées. Ça veut dire que c'est quand même tout à fait important de le considérer. Et donc, ces voies maritimes qui vont s'ouvrir vont forcément aussi perturber, modifier donc le régime de ces régions. L'autre enjeu qui est tout à fait conséquent, c'est la première prospection du cercle arctique fait ressortir que près de 20% des réserves aujourd'hui connues, possibles d'hydrocarbures, à la fois donc de pétrole, mais surtout de gaz naturel, et en gaz naturel, on arrive à des pourcentages qui sont assez conséquents, puisque nous sommes à 30% des réserves qui seraient situées dans le socle, donc sous la banquise. Ce qui ne manque pas, bien sûr, d'aiguiser les tensions entre les pays riverains. Je rappelle que les pays riverains qui, pour certains, ont une façade très très conséquente, hein, sur l'océan glacial arctique, c'est le Canada, c'est bien sûr les États-Unis aussi par l'état de l'Alaska, mais c'est la Russie, qui est une très longue, comme le Canada d'ailleurs, hein, une côte très très conséquente, mais c'est aussi le Groenland, qui est une terre danoise, et également le cinquième, c'est la Norvège, qui a l'archipel du Svalbard. Les relations deviennent parfois difficiles entre certains de ces États au nord, qui augure donc de difficultés à venir sur donc l'amplification de ces relations, de ces difficultés liées à ces enjeux notamment de réserves dans le sous-sol, de définition l'appartenance. Vous savez, l'an dernier, la Russie, lors d'une mission, a pu, au travers des 4000 mètres de profondeur de cet océan Arctique, à l'aide d'un bathyscaphe, aller conduire et planter le drapeau russe sur le continent, en revendiquant la continuité territoriale, géologique, du continent russe vers ce sous-sol situé sous la banquise. Donc c'est dire toute l'attention aujourd'hui qui est portée sur ces sujets et qui forcément menace la biodiversité, puisque la réduction de la banquise modifie considérablement la vie à la fois des populations, puisqu'à la différence du pôle sud, le pôle nord est habité, il y a des populations, il y a également des espèces animales qui sont confrontées aujourd'hui à des difficultés par rapport à des éloignements de lieux de nourrissage, puisque la réduction de la surface de la banquise réchauffe les eaux. Et vous savez, il y a tout un processus de conduction des eaux froides, des eaux chaudes, qui font qu'il y a des mutations et des changements conséquents dans l'évolution des espèces animales dans cette région.
Monsieur le sénateur, merci d'avoir précisé les enjeux de ces régions polaires. Je vous propose de marquer une courte pause et de reprendre cette émission en évoquant notamment la recherche polaire française.
Un jour dans l'histoire revient sur le sac du Palais d'été qui s'est déroulé en octobre 1860. Pourquoi le Palais d'été des empereurs a-t-il été pillé, saccagé, puis brûlé à l'issue d'une expédition militaire franco-anglaise? Réponse en compagnie de l'historien Bernard Brisé sur Canal Academy, une émission en libre écoute et libre téléchargement.
Madame, Monsieur, vous êtes à l'écoute de Canal Academy où nous recevons aujourd'hui le sénateur Christian Gaudin, premier et seul parlementaire français à s'être rendu en Antarctique et plus récemment en Arctique, et auteur d'un rapport « Se donner les moyens de l'excellence, la recherche polaire française à la veille de l'année polaire internationale ». Monsieur le sénateur, vous soulignez dans votre rapport le rôle clé des pôles dans la compréhension du changement climatique. Est-ce que comprendre les climats anciens permet de comprendre le futur du climat? Quelles sont les principales découvertes qui ont été faites en ce domaine et que peut-on attendre de nouveau dans les années qui viennent?
Après cette expérience, cette aventure sur le continent antarctique, j'ai bien sûr eu à cœur de restituer auprès du Parlement le vécu, à la fois dans la connaissance acquise des secteurs scientifiques qui sont travaillés sur aux hautes latitudes, donc sur le continent antarctique, mais également toute la logistique qui est nécessaire pour conduire ces recherches. Alors nous avons plus en vue tout ce qui s'intéresse à l'évolution des climats, puisque les pôles, et j'ai mal rappelé, les deux pôles, sont nécessaires à la compréhension de l'évolution du climat. Et vous savez qu'au Parlement, il existe un office tout à fait particulier, un office parlementaire, donc par définition qui associe les deux chambres, les députés et les sénateurs, qui s'intéresse à ces choix scientifiques qui sont forcément très en lien avec des préoccupations sociétales. Cet office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, dont je suis membre, paraissait tout à fait être l'endroit pour conduire un rapport nécessaire au Parlement pour mieux comprendre cette préoccupation qui est complètement dans l'actualité. Alors il faut bien signaler que j'ai parlé tout à l'heure d'une approche bipolaire. Elle est nécessaire puisque des sondages ont été réalisés dans les glaces, à la fois au pôle nord et au pôle sud. Et nous avons la chance sur le continent antarctique d'avoir une épaisseur de glace, notamment sur la base Concordia, conséquente, hein, plus de 3000 mètres d'épaisseur de glace, qui nous permet donc, par carottage, d'aller rechercher des éléments qui sont très anciens, puisqu'ils datent de plus de 800 000 ans.
Puis-je vous demander ce que l'on entend exactement par carottage ?
Le carottage est l'action de reprendre dans cette épaisseur de glace un élément cylindrique que l'on perfore avec un... C'est pas très éloigné des techniques utilisées dans la prospection pétrolière, mais on remonte...
C'est une sorte de forage, en quelque sorte.
On remonte donc, oui, par forage, un cylindre d'un diamètre d'une dizaine de centimètres, d'un cylindre de glace qui a une longueur reconstituée, donc une longueur d'un peu plus de 3000 mètres, ce qui est assez époustouflant. Et on a donc à 3300 mètres, pour être un peu plus précis, de la glace qui a été formée, qui s'est stratifiée par la neige, hein, qui est donc tombée sur ce continent. Et la glace qui s'est formée il y a un peu plus de 800 000 ans. La glace en formation, lorsqu'elle est le résultat de stratification des couches de neige et de glace qui sont formées en superficie, emprisonne des bulles d'air. Et ces bulles d'air, lorsque vous allez chercher une glace de 800 000 ans, c'est l'atmosphère de l'époque. Et nous sommes capables aujourd'hui de déceler dans ces glaces, à la fois dans ces minuscules gouttes d'atmosphère, on établit l'ensemble des éléments qui constituaient l'atmosphère de l'époque. Et nous avons aussi dans les glaces des éléments sous forme de spores, sous forme de minéraux, qui attestent aussi d'une convection, de vent, etc., qui ont pu apporter des éléments de régions très très lointaines. Et on a donc reconstitué, par ces sondages réalisés dans les glaces du Sud, mais aussi dans les glaces du pôle Nord, au Groenland notamment, et en intermédiaire, dans des forages sédimentaires réalisés dans les océans qui, font le lien entre ces deux pôles. Et on a une image aujourd'hui assez précise de la relation qui existe entre le pôle Nord et le pôle Sud, cette relation étant assurée à la fois par les courants océaniques, mais également par les courants atmosphériques. C'est un système thermodynamique tout à fait intéressant. Ces deux sources froides donc au pôle, l'équateur donc qui se trouve au milieu de cette position, hein, de notre planète, et ce fonctionnement est tout à fait intéressant. Et on a pu retrouver donc au travers de ces éléments l'ensemble de l'évolution du climat sur un espace temporel de 800 000 ans, un peu plus de 800 000 ans.
Ce qui nous éclaire... Est-il possible, est-il concevable de remonter au-delà, à 1 million d'années, par exemple ?
L'objet de la création d'une nouvelle base sur le dôme A, à une altitude qui dépasse les 4000 mètres par les scientifiques chinois, c'est pour justement espérer aller presque à 1 500 000 ans et poursuivre donc l'expertise au travers de ces glaces et d'apporter des compléments dans la compréhension de l'évolution des climats. Vous savez, nous traversons des périodes glaciaires avec des périodes de réchauffement interglaciaire. Ça, c'est aujourd'hui complètement établi. Ce qui nous importe, c'est la manifestation d'un certain nombre d'éléments depuis 150 ans, et notamment sur cette deuxième moitié, c'est-à-dire les 70 dernières années, où on a des évolutions tout à fait significatives, notamment dans les gaz à effet de serre. Et on a aussi, par les traces de polluants, on mesure aujourd'hui, et on peut, on est assuré aujourd'hui dans le constat, et on peut donc forcément aujourd'hui confirmer que le réchauffement qui est bien sûr mesuré et évalué sur le dernier siècle, est forcément à mettre en relation avec l'activité de l'homme, sous la forme de consommation d'hydrocarbures, sous la forme d'utilisation de produits polluants au niveau de l'atmosphère, et de relier donc le réchauffement climatique et l'évolution de la banquise par ce réchauffement à l'activité industrielle qui s'est développée depuis près d'un siècle.
Est-ce que la climatologie, l'étude des climats, fait partie des domaines d'excellence de la recherche polaire française? Est-ce qu'elle, il y a d'autres domaines où excelle cette recherche polaire?
Alors, la climatologie est un domaine bien connu des scientifiques français et on peut tout à fait aujourd'hui dire que d'excellentes équipes de laboratoires français ont travaillé en lien avec des chercheurs russes et d'autres pays, bien sûr, dans le cadre de programmes internationaux. Là, je veux parler des premiers sondages réalisés sur la base Vostok, qui se sont poursuivis sur la base Concordia depuis une quinzaine d'années et qui ont donné lieu à un programme européen qui est tout à fait aujourd'hui reconnu et qui a apporté donc justement les éléments que j'ai établissait tout à l'heure, c'est le programme EPICA qui a permis donc d'explorer les glaces sur le Dôme C à une profondeur de presque 3300 mètres. Alors ça, le niveau d'expertise français est reconnu par la participation dans les programmes internationaux tels que je l'ai évoqué, mais il est évident que dans les secteurs comme la biologie, notamment biologie marine, sur les bases de banquise, est tout à fait reconnue. Et pour la France, qui a depuis 1950, les années 1950, une base établie autour et proche de Dumont d'Urville, sur le continent donc antarctique, en Terra Deli, nous a permis d'établir des bases de données tout à fait essentielles aujourd'hui sur l'évolution des espèces animales de banquise. Et nous sommes sans doute aujourd'hui les seuls à disposer de cette richesse d'informations qui est donc enregistrée depuis plus de 50 ans, due donc à l'activité française sur ces bases polaires. Mais autour des sciences de l'univers, nous avons là également un savoir-faire qui est tout à fait reconnu. Et dans les conclusions de mon rapport, et je voudrais là peut-être évoquer l'objet de mon rapport fait pour l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'objet du rapport était d'expertiser la situation de la recherche polaire française par rapport à la dimension européenne et surtout la dimension internationale. Et véritablement, avec les auditions que j'ai pu conduire dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, en Russie, dans les pays européens, en Australie également, on peut dire aujourd'hui que la position française est une position tout à fait intéressante. Seulement, c'est une recherche, vous l'avez bien comprise, par rapport à la dureté de ces lieux, aux conditions climatiques extrêmes, demande une logistique tout à fait adaptée.
Très importante. Et la France a-t-elle des moyens suffisants à consacrer à la recherche polaire? Vous dénoncez notamment dans votre rapport un sous-financement de la logistique. Est-ce que ça pose un véritable problème et pourquoi est-ce important?
Alors, il y a le coût donc de la recherche réalisée dans le cadre de programmes scientifiques pour un certain nombre internationaux. Donc ça appelle bien sûr une participation de financement de la recherche française au travers des organismes à un certain niveau, mais il y a aussi les besoins logistiques nécessaires. Et ces besoins logistiques, ils sont, comme vous pouvez le penser, tout à fait d'un coût vraiment très, très,
très,
très élevé, grand.
J'imagine, oui.
Bien sûr. Et c'est pourquoi, de par nos relations, à la fois avec l'Italie sur le continent antarctique, mais aussi avec l'Allemagne en Arctique, puisque la vocation, la recherche française est très développée sur le continent antarctique, historiquement, parce que nous sommes présents, et nous avons nous-mêmes, c'est un Français qui a découvert ce continent, il faut le rappeler, hein, en 1840, et nous sommes restés près d'un siècle sans trop porter beaucoup d'attention à ce continent antarctique, mais depuis les années 1950, nous sommes très présents. Alors que notre vocation au Nord est beaucoup plus récente. Et elle est notamment, elle se réalise en lien avec les Allemands. Il y a une très très bonne relation au Nord.
Effectivement, la France est moins présente en Arctique qu'en Antarctique. Et vous appelez à un rééquilibrage de la présence française dans votre rapport.
Les scientifiques, et ça je peux le dire dans les diverses disciplines qui sont examinées au pôle, les scientifiques préconisent une approche bipolaire, puisqu'il y a cette complémentarité que j'expliquais tout à l'heure en climatologie, mais elle se vérifie aussi en biologie, etc., dans plusieurs disciplines ou dans les sciences de l'univers. Il est tout à fait intéressant d'avoir cette approche comparative pour mieux comprendre ce qui se passe donc au pôle. D'où l'intérêt pour nous de poursuivre nos relations avec notamment l'Allemagne au nord, mais également avec d'autres pays européens, Royaume-Uni, l'Italie, nous développons des programmes conjoints, au nord comme au sud. Et j'en appelais dans mon rapport peut-être un regard porté au sens peut-être de l'Union européenne, notamment sur les moyens logistiques qui sont nécessaires, par rapport notamment à un bateau brise-glace qui peut aller au nord comme pour peut également aller au sud. Ce sont des investissements qui sont
très importants et donc la France ne peut pas investir
voilà,
seule.
Voilà, elle seule ne peut pas investir et je crois qu'aujourd'hui la question doit se poser au niveau européen. Et je crois que ça a été, par les différents pays auditionnés, l'ensemble des interlocuteurs sont tout à fait aujourd'hui d'accord. Alors je peux peut-être relier ça à un travail que j'ai entrepris, qui m'a été demandé par Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse, qui, dans le cadre de la conférence internationale de l'Arctique, qui va se dérouler à Monaco le 9 et le 10 novembre prochain, l'objectif étant, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, que la France prenne l'initiative, dans le cadre de cette conférence internationale de l'Arctique, au vu des difficultés soulignées tout à l'heure par rapport aux évolutions dans la relation entre les pays riverains de l'Arctique, il y a, je crois, une voie que l'on doit ouvrir qui facilite la relation entre les États et la voie que l'on peut aujourd'hui, vraiment sur laquelle on peut s'appuyer, c'est la voie scientifique. Puisque les scientifiques ont par essence, je dirais, ces habitudes
de collaboration,
oui. De concertation. C'est évident en Antarctique, parce qu'on est sur un territoire sans vie, complètement isolé, et il y a cette obligation de concertation au niveau donc des hommes, alors que au pôle Nord, les pays riverains, zones habitées, eh bien, on n'a pas du tout la même situation. Et l'objet de mon travail aujourd'hui est d'explorer la voie de la mise en place d'un observatoire multidisciplinaire qui associe donc les sciences de l'univers, les sciences du vivant, les sciences humaines et sociales, observatoire multidisciplinaire mais aussi à dimension internationale pour faire du lien au travers de la communauté scientifique et faire en sorte que l'évolution qu'on voit qui se développe au Nord ne soit pas seulement et complètement appréhendée par les États riverains de l'Arctique, mais aujourd'hui, et il faut le dire, ces évolutions intéressent bien sûr l'ensemble des États et ça doit être une préoccupation internationale. Nous sommes loin de ce qui est établi au Sud, c'est-à-dire un traité international, mais il est évident que sur l'océan glacial arctique, de par ces évolutions récentes et surtout intenses, il nous faut apporter un regard international sur ces sujets.
Pensez-vous que la présidence française de l'Union européenne, donc en cette année 2008, soit l'occasion de définir une véritable stratégie européenne pour la recherche polaire ?
Alors, c'est quelque part, quand j'évoquais la conférence sur l'Arctique, conférence internationale de l'Arctique, c'est en partie donc par rapport à cela. Mais je crois ce qui nous permet, ce qui permet à la France, au président de la République française, qui assure la présidence de l'Union européenne, c'est de s'appuyer sur la situation scientifique, la position scientifique de la France au pôle, qui a été réaffirmée aussi au travers de l'année polaire internationale. Il faut le dire, il faut aussi le souligner, l'année polaire internationale a vraiment été un facilitateur dans le développement de la recherche polaire, dans la mise en place de programmes scientifiques internationaux, et la place de la France était donc évidente. Mais la présidence française se doit aujourd'hui de saisir cette opportunité de la responsabilité européenne, de la présence, puisque nous sommes toujours dans le cadre de l'année polaire internationale, pour véritablement appuyer au travers de cette conférence sur l'international de l'Arctique, mettre véritablement en exergue les préoccupations et faire des propositions auprès de la communauté scientifique pour la création d'observatoires qui doit faciliter les relations entre les États sur les préoccupations du Nord.
Cette quatrième année polaire internationale que vous évoquez, pouvez-vous nous en préciser les objectifs, nous dire ce que vous en attendez et peut-être rappeler à nos auditeurs très brièvement ce qu'ont apporté les trois précédentes années polaires internationales?
L'année polaire internationale a mobilisé des moyens conséquents, donc au niveau mondial. Elle a, au niveau européen, bien sûr, en ce qui nous concerne directement, permis aussi de dégager des moyens financiers pour conduire un certain nombre de recherches, développer des programmes qui nous paraissent tout à fait essentiels aujourd'hui par rapport à la climatologie, mais aussi par rapport à la biologie, par rapport au spatial, par rapport à l'astronomie. Je n'ai pas cité ces diverses disciplines, mais elles sont d'excellence, notamment sur le continent antarctique. Alors, l'année polaire internationale est véritablement là pour donner le coup de projecteur, bien sûr, sur l'activité de la recherche qui se déroule au pôle. Prenons en exemple la précédente année polaire internationale de 57-58, puisqu'il nous faut bien sûr deux années pour avoir l'excursion complète d'une année dans les deux hémisphères. Mais en 57-58, ça a vraiment été à la base du traité de l'Antarctique. Alors, mon souhait, moi en tant que parlementaire, que politique, qui bien sûr s'intéresse, comme vous l'avez compris, à ces sujets, c'est, dans le cadre de l'année polaire internationale qui se déroule aujourd'hui, par rapport à la présidence française de l'Union européenne, c'est, je pense, saisir, et devant les préoccupations du Nord, saisir justement l'année polaire internationale qui se déroule aujourd'hui pour faire en sorte qu'elle puisse activer la réflexion pour en arriver demain à faire évoluer la concertation entre les peuples pour garantir le pôle Nord.
Cette quatrième année polaire internationale, dont je rappelle qu'elle s'est ouverte au Sénat le 1er mars 2007, peut-elle contribuer aussi à une meilleure prise de conscience par l'opinion publique, des enjeux de la recherche polaire et favoriser une mobilisation civique? Qu'en pensez-vous?
Ben, je suis très, très, très heureux d'évoquer, et vous me donnez, madame, la possibilité de rappeler le nombre d'expositions, de manifestations, toute la communication qui a pu se faire autour de l'année polaire internationale qui soutient et aide la recherche scientifique au pôle. Rappeler aussi que l'année polaire internationale s'est ouverte en France le 1er mars 2007 et que, m'intéressant à ces sujets, J'avais bien sûr proposé à Monsieur le Président du Sénat d'organiser l'ouverture de l'année polaire en France au Sénat dans la deuxième partie, la deuxième demi-journée, l'après-midi, avec notamment un colloque scientifique qui s'est déroulé donc au Sénat. Il y a actuellement sur les grilles du Sénat, vous savez que c'est un endroit qui est particulièrement bien connu des Parisiens et également des provinciaux qui viennent régulièrement admirer les collections, les présentations réalisées sur les grilles du Sénat. Il y a actuellement une exposition et là je conseille bien sûr de venir y jeter un regard, hein, cette exposition concernant les deux pôles. Qui,
exposition intitulée, je crois, Terre des pôles, à laquelle Canal Academy a consacré une émission que vous pouvez écouter sur le site de Canal Academy avec Nicolas Mingasson, photographe et commissaire de l'exposition.
Eh bien, très bien de le rappeler. Et également, il est prévu un deuxième colloque, plus un colloque scientifique de conclusion, hein, d'année polaire internationale, qui va se dérouler en mai prochain et qui est organisé entre le Collège de France et le Sénat par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et je travaille bien sûr à la mise en place de ce colloque. Vous voyez, le Parlement, mais il me semble aussi d'importance que le Parlement français soit bien au fait de ses préoccupations, puisqu'elles sont majeures, comme on a essayé de l'expliquer à nos auditeurs au travers de cette présentation de la recherche polaire.
Monsieur le sénateur, merci. Merci pour nous avoir emmenés dans ces hautes latitudes. Vous pourrez, pour ceux qui s'intéressent particulièrement à l'Arctique et à l'Antarctique, écouter quelques émissions sur Canal Academy, outre l'émission Terre des pôles, les émissions avec Claude Lorius, avec Yvan Lemao, tous deux membres de l'Académie des sciences, et d'autres encore. Et vous pourrez retrouver les deux rapports de Monsieur le sénateur Christian Gaudin sur les questions polaires sur le site du Sénat www.sénat.fr, vers lequel notre radio fera également un lien. Merci Monsieur le sénateur et nous espérons vous retrouver pour reparler de ces questions passionnantes.
Merci beaucoup Madame.